Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Ces dernières années, le Gabon a connu une série de délestages répétés. Des quartiers entiers plongés dans l'obscurité, des entreprises paralysées, des hôpitaux fonctionnant au ralenti. Et la question que tout le monde pose, en tout cas que je me suis posée, c'est où est le courant ? Je crois que si notre compagnie d'électricité et d'eau était une personne, elle aurait été en très grande difficulté. Son visage a été mis plusieurs fois sur les statues. Son nom a été cité régulièrement. Et à ce nom, des imprécations ont été faites. SEG. Parfois, certains ont été moins polis. Insulter la mère de la SEG. La frustration peut faire que tu parles à quelque chose qui ne t'entend pas. Parlant à la SEG, en réalité, tu parles à ceux qui sont derrière. Et tu essayes de leur dire que ce n'est pas correct, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Où est le courant ? Où est la puissance ? Cette question technique cache une réalité spirituelle dévastatrice. L'Église, aujourd'hui, ressemble étrangement à notre réseau électrique national. L'infrastructure existe, les pylônes sont debout, les câbles sont tendus, mais la puissance ne circule plus. Nous avons parfois des bâtiments magnifiques, des programmes structurés, des formations théologiques de qualité. Nous avons même des conférences internationales. Mais où est la puissance qui transforme les nations? Où est la puissance qui guérit les malades? Où est la puissance qui libère les captifs? Où est la puissance qui fait trembler les systèmes corrompus? La problématique que nous essayons de poser depuis le début de l'année est celle des mauvaises fondations, des mauvais commencements. Nous disons que quel que soit ce que nous voulons entreprendre et bâtir dans cette vie, il nous faut commencer avec Dieu. Nous vous encourageons depuis plusieurs semaines maintenant à mettre Dieu en premier. Aide-moi à parler à ton voisin de gauche ou de droite et dis-lui « Mets Dieu en premier ». S'il ne te parle pas, c'est le bon voisin, insiste. Dis-lui, mets Dieu en premier. Alors, nous insistons clairement sur le fait que tout, absolument tout, doit commencer avec lui, par lui et pour lui. Dieu d'abord. Voyez-vous, très chers frères et sœurs en Christ, alors que nous avons donné pour thème à ce mois de janvier l'effet premier, Dieu d'abord, nous parlons bien plus que de l'argent, des prémices ou même d'un jeûne. Nous parlons de nos vies. Genèse 1, le verset premier dit « Au commencement, Dieu. » Au commencement, Dieu. Que quelqu'un dise « Au commencement, Dieu. » Quel que soit ce que tu veux commencer, ça doit commencer avec Dieu. Au commencement d'une relation, merci. Au commencement d'une entreprise, au commencement d'un projet, au commencement d'un voyage, au commencement d'un déménagement, au commencement de ta santé, au commencement de tes finances, au commencement de l'éducation de tes enfants? Dieu. Ce Dieu dont Moïse parle, Jean l'associe au Logos. Il y a une mathématique divine que Jean révèle, une logique du royaume qui défie la logique du monde. Jean 1, le verset 1. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole à laquelle Jean fait référence, c'est le Logos. Ce n'est pas seulement un mot, c'est une logique. Dieu n'est pas seulement le créateur, il est la logique fondamentale de toute réalité. Ce mot logos est le mot duquel on tire le mot logique. Et lorsque vous comprenez ce que ça implique, ça veut dire qu'au commencement était la logique. Au commencement était le logos. Il y a une logique derrière chaque commencement. Il y a une façon de penser derrière chaque commencement. Quand tu commences quelque chose, tu le commences avec une logique. Cette logique-là, Jean dit, c'est ton Dieu. Ça veut dire que ta façon de penser nous donne une indication sur qui est ton Dieu. Ta façon d'entreprendre, ta façon de bâtir, ta façon de commencer nous donne une indication sur qui est ton Dieu. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Quand vous mettez Dieu en premier, vous n'êtes pas en train de faire un geste pieux. Vous êtes en train de réaligner votre vie sur la logique fondamentale de l'univers. En fait, quand vous mettez Dieu en premier, vous vous positionnez en adéquation avec l'univers. Quand vous mettez Dieu en premier, vous considérez que vous mettez de votre côté les forces nécessaires pour que ce que vous commencez réussisse. C'est le révérend Wills qui, dimanche dernier, a mis l'accent sur le type de pensée qui doivent être prioritaires et dominantes pour que nous vivions pleinement la vie à laquelle Dieu nous appelle. Je sais que je commence doucement ce matin et que certaines personnes, parce que c'est le premier culte, sont en train de chercher à savoir où je vais. Si malgré tout ce que nous vous disons, malgré tout ce que nous vous enseignons, vous choisissez de faire passer Dieu en second ou même en dernier, c'est parce qu'au plus profond de vous-même, vous pensez que ça ne marche pas. Notre expérience du divin est une expérience sans puissance. La question que tu te poses et que je me suis posé, quand tu regardes à ta vie, toi qui dis que tu essayes de mettre Dieu en premier, la question que tu te poses, c'est où est la puissance? Quelqu'un va me dire, évêque, et la sœur Rose tout à l'heure était en train d'essayer d'évaluer les acclamations de ceux qui sont là depuis quelques mois et ceux qui sont là depuis quelques années, je me suis rendu compte à l'écoute des acclamations que c'est les plus vieux qui ont acclamé le plus fort. Ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Peut-être parce que ceux qui sont là depuis plus longtemps savent que si ce n'était pas Dieu, ils ne seraient plus là. Quand vous arrivez nouvellement dans une communauté comme celle-ci, c'est tout nouveau, tout beau. Les gens ressemblent à des anges. Vous êtes émerveillés par la louange et par l'adoration, la qualité des voix et de la musique. Émerveillés par la dextérité verbale des maîtres du culte. Vous êtes émerveillés par l'accoutrement, tout semble on point, everything, tout semble être à sa place. Mais few weeks later, quelques semaines plus tard, non, quelques mois plus tard, parfois quelques années plus tard, tu te rends compte que les anges ont aussi des cornes et que chaque ange a sa part d'ombre. Quelqu'un te frustre, tu dis bonjour à quelqu'un qui te toise, tu rentres en conflit avec quelqu'un dans un département, tu assistes à une scène à laquelle tu n'as même pas assisté dans le monde et tu te dis, mon Dieu, où est-ce que je suis tombé? Mais quand tu es là depuis longtemps et que les mauvaises attitudes, les mauvais comportements, les ragots, les rumeurs, les critiques internes et externes n'ont pas réussi à te chasser, n'ont pas réussi à te faire perdre de vue la raison pour laquelle tu es dans cette maison. C'est normal que tes acclamations soient matures. C'est normal que tes acclamations soient assaisonnées, pas juste de foi, mais de maturité. Je n'acclame plus pour impressionner quelqu'un. Je ne dis pas amen parce que je veux qu'on me voie bien. Je ne crie pas alléluia parce que je veux attirer l'attention de l'évêque. Si ce n'était pour Dieu, si ce n'était pour Dieu, si ce n'était pour Dieu, je ne serais plus ici. Mais ceux qui ont des raisons de célébrer Dieu de ce matin dans cette maison, ceux que même Satan n'a pas réussi à chasser, ce que les problèmes n'ont pas réussi à décourager. Tu es ici et si tu sais que si c'était l'ancien toi, depuis tu ne serais plus là. Mais il y a quelque chose de plus grand que toi qui te garde dans cette maison. Parfois ça n'a pas de sens aux yeux des hommes, mais tu es conscient qu'il y a un Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. J'aimerais que tu le célèbres par des acclamations et par des cris de joie. J'aimerais que tu montres à quelqu'un. J'aimerais que tu montres à quelqu'un que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu.
Alors, asseyez-vous, s'il vous plaît. Regarde ton voisin, dis-lui, je sais d'où je viens. Non. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, je sais d'où je viens. Dis-lui, il y a très peu de choses que tu peux me dire. Il y a très peu de choses que tu peux me dire au sujet de mon église que je ne connais pas déjà. Malgré tout ça, là, je suis là. Oh, j'aime pas comment tu dis je suis là. Je suis là. Malgré tout ce qu'on raconte sur mon évêque, je suis là. Malgré tout ce qu'on dit sur mon église, je suis là. On va me traiter de fanatique, mais je suis quelqu'un qui sait d'où il vient. Je sais d'où Dieu m'a pris. Je sais ce que ces prédications ont changé dans ma vie. Je sais comment je suis venu à un culte et la louange a redonné de la force à mon âme. Je suis là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là contre vents et marées? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là malgré ce qu'on raconte sur l'église? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là malgré ce qu'on dit sur leur pasteur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là à cause de Jésus de Nazareth? Jésus-Christ de Nazareth.
Je suis là. Je suis là. Hey. Il y a des gens qui m'écrivent parfois pour m'informer sur ma propre église. Hey, tu ne peux pas avoir plus d'informations dehors que moi dedans. Et souvent les informations du dehors ne sont pas celles de dedans. Tu sais, si dehors arrive encore à te bouger, c'est que tu n'es pas vraiment dedans. Quelqu'un me dira, évêque, je mets Dieu d'abord, mais je n'arrive pas à payer mon loyer. Je mets Dieu d'abord, mais je n'arrive pas à payer l'école de mes enfants. Je mets Dieu d'abord, mais j'enterre quand même mon proche. Je mets Dieu d'abord, mais ma relation bat quand même de l'aile. Je mets Dieu d'abord, mais je me retrouve quand même à être expulsé de mon environnement professionnel. Je mets Dieu d'abord, mais je n'arrive pas à gravir les marches de la société. Je mets Dieu en premier, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Où est la puissance? Vous l'avez compris, c'est le thème de mon message ce matin. Où est la puissance? Cette question n'est pas nouvelle. Il y a plusieurs milliers d'années, un jeune homme, dans un pressoir, terrorisé, affamé, battu par la vie, a posé exactement la même question à un ange de Dieu. Son nom était Gédéon.
Sa question va nous révéler ce matin pourquoi tant de chrétiens vivent une foi sans puissance. Ce matin, mon projet, c'est de nous aider à ne pas juste avoir l'apparence de la piété, mais à vivre la force qui doit venir avec. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Juges, chapitre 6. On va lire quelques versets. Comme je sais que souvent, vous n'avez pas trop le temps de lire la Bible à la maison. Donc, on va lire quelques versets ensemble. La lecture sera un peu longue, mais c'est pour des raisons de contexte. Je vais lire un verset, vous allez lire le suivant. On lira du verset 1er jusqu'au verset 18. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. 30 secondes avant qu'on continue. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare que tu ne craindras pas les dieux des gens avec lesquels tu évolues professionnellement. Je dis, tu ne craindras pas les dieux des gens avec lesquels tu évolues dans ta famille. Je dis, tu ne craindras pas les dieux des gens avec lesquels tu évolues dans ce pays. Je dis, les dieux étrangers ne te feront pas peur. Je dis, la sorcellerie ne te fera pas peur. Je dis, les gris-gris ne te feront pas peur. Je dis, les talismans ne te feront pas peur. Je dis, les sacrifices ne te feront pas peur. Quels que soient les dieux étrangers auquel tu es confronté, tu sortiras victorieux. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. À la barra. Qui de barra? Kadadadaha. Radigadoua. Mantalite padri adou. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Ah, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles
arrivées? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie?
Ah.
L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Juge 6 nous plonge dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Depuis 7 ans, le peuple de Dieu vivait sous l'oppression brutale de Madian. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les enfants d'Israël se firent les cavernes qui sont dans les montagnes, les grottes et les retranchements. Imaginez avec moi, le peuple qui avait traversé la mer Rouge à pied sec, qui avait vu les murailles de Jéricho s'écrouler, qui avait conquis des nations entières, ce même peuple se cachait maintenant dans des grottes comme des animaux traqués. Ils avaient l'histoire, ils avaient les récits, ils connaissaient les miracles de leur père, mais ils n'avaient plus la puissance. Alors, pour être sûr que tu comprennes de quoi je parle, c'est un peu comme toi qui as des témoignages et qui est capable de dire en 1996, Dieu m'a touché, Dieu m'a fait du bien. En 2000, Dieu est intervenu dans ma vie. Dieu m'a donné un travail. Dieu m'a béni avec un foyer stable. Dieu m'a donné un enfant. Mais le problème, écoutez-moi bien, c'est que les témoignages ne doivent pas rester une histoire du passé. À un moment, ton témoignage d'hier doit provoquer la foi pour le témoignage d'aujourd'hui. Tu dois refuser de vivre ta vie en regardant constamment en arrière pour chercher la présence de Dieu dans ta vie. Normalement, lundi, tu dois avoir un témoignage. Je dis mardi, tu dois avoir un témoignage. Je dis mercredi, tu dois avoir un témoignage. Jeudi, tu dois avoir un témoignage. Vendredi, tu dois avoir un autre témoignage. Samedi, tu dois avoir un témoignage. Et quand on arrive à dimanche, tu dois avoir les témoignages de la semaine que tu présentes à Dieu en disant, Seigneur, merci pour ce que tu as fait la semaine. Je refuse de vivre ma vie sur les témoignages de 2015. Je refuse de vivre ma vie sur les témoignages d'hier. Je veux avoir aujourd'hui de nouveaux témoignages. Je suis reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait hier. Mais en 2026, il y a de nouveaux défis. Il y a de nouveaux problèmes. Je refuse qu'on me dise, oui, le Gabon est un pays où il n'y a pas la guerre. Oui, il n'y a pas la guerre, mais il doit y avoir le courant. Il doit y avoir l'eau. Les gens doivent travailler. Je refuse de vivre ma vie simplement en regardant aux autres pays et en disant, je n'ai pas ce qu'ils n'ont, ce qu'ils ont. Moi, je veux qu'au Gabon, soit le Gabon soit un pays où il fait bon vivre, où chaque Gabonais peut habiter dans sa maison sans avoir peur de l'État. Là-bas, j'aimerais que tu bouscules 2-3 personnes. Dis-leur, Dieu t'a fait du bien hier. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Alors la Bible dit, Lamentations 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se... Chaque... Pas chaque semaine, pas chaque mois, pas chaque année, chaque... S'il y a un matin, il doit y avoir une bonté. S'il y a un nouveau jour, il doit y avoir un nouveau témoignage. J'aimerais que tu déranges 2-3 personnes à côté de toi. Dis-leur, je ne suis pas satisfait de ma vie. Regarde, ce voisin n'aime pas quand tu lui parles. Cherche un autre voisin. Dis-lui, je ne suis pas satisfait de ma vie. J'ai un travail, mais ce n'est pas suffisant. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai une voiture, mais ce n'est pas suffisant. J'ai des enfants, mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai, je suis marié, mais ça ne me suffit pas. Je ne veux pas chercher Dieu à la loupe. Normalement, Dieu doit être tellement grand dans ma vie que c'est impossible de ne pas le voir, que c'est impossible de le rater, que c'est impossible de ne pas l'identifier. Je ne veux pas attribuer à Dieu ce qui revient à mon oncle. Je ne veux pas attribuer à Dieu ce qui revient à mes diplômes. Je veux que Dieu fasse quelque chose que mes diplômes ne peuvent pas faire. Je veux que Dieu fasse quelque chose que mon oncle ne peut pas faire. Je veux que Dieu fasse quelque chose que ma famille ne peut pas faire. Je bénis Dieu pour la famille dans laquelle je suis né. Mais où est la puissance?
parlais avec quelqu'un qui me disait, évêque, où sont mes témoignages? Et je lui ai dit, mais l'un de tes témoignages, c'est que tu as envie. Elle dit, évêque, ça, c'est plus un témoignage. Évêque, ça, c'est plus un témoignage. Évêque, ça, c'est plus un témoignage. Il veut me reprendre le souffle, qu'il le prenne. Mais s'il me garde en vie, je dois avoir des témoignages. Comment les gens sauront que j'appartiens à Dieu si Dieu ne marche pas avec moi? Comment les gens sauront que je suis intouchable si Dieu ne marche pas avec moi? Ce n'est pas normal qu'un fusil nocturne t'atteigne. Ce n'est pas normal qu'un CPT te paralyse. Ce n'est pas normal que tu aies des migraines au point que tu ne puisses plus étudier. Ce n'est pas normal que tu aies tellement mal à la tête que tu ne puisses pas aller au travail. Ce n'est pas normal que l'hôpital soit ta seconde maison. Ce n'est pas normal que tu emmènes tout le temps les enfants à l'hôpital. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Je suis allé à l'hôpital visiter une de nos fidèles. Et quand j'arrive à l'hôpital, je suis dérangé par l'état délabreux de l'hôpital. Je suis dérangé par l'état de l'hôpital. Quand je regarde au fil qui pendent du plafond, je regarde à la chambre où il y a cette personne qui est hospitalisée. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas de courant. Et puis on me dit, oh, on doit rendre grâce à Dieu pour le Gabon. Je rends grâce à Dieu pour Dieu, mais je ne suis pas satisfait de mon pays. Il faut que quelque chose change. Il faut que les lignes bougent. Il faut qu'on arrête de me dire, satisfais-toi du pain. Je ne veux plus le pain, je veux la boulangerie. Je suis fatigué qu'on me limite à quelque chose auquel Dieu ne m'appelle pas. Je suis déterminé à vivre plus que ce que je vis maintenant. Que quelqu'un crie, où est la puissance? Ça ne vous dérange pas que les sorciers évoluent? Ça veut dire que les gens dans votre environnement n'ont aucune honte à dire qu'ils sont dans un rite, dans une société ésotérique. Ils n'ont aucune honte à venir vouloir vous proposer d'être parrainés. Mais vous, vous avez du mal à pouvoir les inviter à l'église. Parce que quand vous comparez vos vies à la leur, au leur, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un fossé. Comment tu évangélises des gens qui, lorsqu'ils te regardent, n'ont pas envie de te ressembler? Comment tu évangélises des gens alors que eux, ils sont en voiture, toi, tu es à pied? Comment tu évangélises des gens qui sont propriétaires, toi tu as l'eau qui rentre dans ta maison? Comment tu évangélises des gens? Je ne suis pas en train de dire que Dieu est le Dieu du matériel, mais ma Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui appartient à Dieu et celui qui n'appartient pas à Dieu. Donne. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, quand je regarde ta vie, je cherche la puissance. Je cherche la puissance. Je cherche la puissance. Prophétesse, je cherche la puissance. DC, je cherche la puissance. Comment vous considérez que le peuple de Dieu, révérende, que Dieu a pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Pharaon a été englouti avec toute son armée. Les murs de Jéricho sont tombés devant eux. Leur renommée s'est répandue dans tous les pays. Ce peuple aujourd'hui fabrique des cavernes pour se cacher des peuples voisins qui attendent le moment où ils sèment. Ça veut dire qu'ils les laissent semer, mais ils empêchent la récolte. Madian n'a pas de problème avec le fait que tu travailles. Madian a un problème avec le fait que tu jouisses du fruit de ton travail. C'est toi qui bosses, c'est quelqu'un d'autre qui prend les honneurs. C'est toi qui mets les gens en contact, l'argent va ailleurs. C'est toi qui construis, mais c'est ton nom qu'on met devant. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas normal que tu travailles et que tu ne jouisses pas du fruit de ton travail. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que la chose qu'on doit à l'ouvrier, c'est pas l'amour, c'est pas la pitié,
La chose qu'on doit à un ouvrier, c'est son salaire. Mais nous vivons dans un monde où les gens travaillent, mais ne jouissent pas du fruit de leur travail. Combien d'entre vous, vous bossez comme des malades? Et au moment où on doit vous payer, on vous parle un langage qui n'a pas de sens. Combien d'entre vous, vous travaillez, et quand finalement l'argent arrive dans vos mains, c'est comme si Madian avait le flair. Ça veut dire que les problèmes attendent le... Quelqu'un meurt. Quelqu'un est malade. Ça dit quelqu'un qui ne t'a pas appelé pendant des mois t'appelle le lendemain de l'entrée financière. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que tu sais que vraiment Dieu m'a mis à cœur? Non, c'est pas Dieu, mon frère. Là, c'est plus Dieu. Tu es envoyé par Madian. C'est pas normal. Bon, certains d'entre vous, vous allez me dire, évêque, moi, j'ai pas de problème. Je travaille et j'ai l'argent. Oui, mais si tu ne jouis pas de l'argent, vous savez que l'argent est capable de donner des gardes du corps, mais pas la sécurité. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. Vous savez ce que c'est que d'être stressé? Non, je parle pas du stress où toi-même tu stresses seul. Non, je parle de la chose qui fait que tu commences à avoir un ulcère d'estomac. Tu gères des problèmes qui n'ont pas ta taille. Toute la famille met les problèmes sur toi. Quand tu as des problèmes, personne n'est là. Mais quand les autres ont des problèmes, tu es la solution. Et tu portes les problèmes de la famille entière. Tu n'as pas la paix. C'est-à-dire que le jour où toi, tu veux voyager, pourquoi tu voyages? Pourquoi il part? Tu fais... Mais aucune paix. Ton propre argent, tu mets tes enfants. Toi-même, ton propre argent. Il y a quelqu'un de la famille qui dit que tu ne t'occupes que de ton enfant. Mais si je ne m'occupe pas de mon enfant, qui va s'occuper de mon enfant?
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.